Black Locast présent. Mais non.
Les Black Locast présentent une émission féministe. Rien à signaler.
Bonsoir, alors vous êtes sur Radio Duo avec Pob et Do. On fait une émission où on essaye de démontrer comment le sexisme et le racisme peuvent s'articuler entre eux, ou en tous les cas comment c'est des luttes qui peuvent s'accumuler. Et pour ce faire, moi aujourd'hui je décide de vous parler d'un texte d'Elsa Dorlin qui s'intitule « De la performativité du genre ». C'est comment de la... Performe ton genre, performe ta race, c'est ça ?
Performe ta race,
ouais,
performe ton genre.
J'ai perdu
genre,
le
ouais.
titre, vous voyez. Et donc l'idée, c'est d'essayer de montrer que l'imitation coloniale et la performativité du genre, en fait, en tous les cas, ont des façons de s'asseoir dans la société qui se rapprochent et qui s'articulent entre elles. Alors, je vais essayer de vous expliquer ça le plus simplement possible.
Peut-être avant de commencer, simplement rappeler à nos auditeurs que nous sommes dans l'émission Rien à signaler,
oui.
qui a lieu donc un mercredi sur deux de 20h à 21h. Et donc, on est bien sur Radio Duo 89.5. Vous pouvez aussi nous écouter sur Internet. Et puis, nous écrire aussi si vous avez des trucs à nous proposer, par exemple, ou je sais pas quoi. Du coup, on a un mail qui s'appelle rien à signaler, tout attaché, @herbefolle, tout attaché au pluriel, .org. Et voilà, et du coup, je vais laisser la parole à Do, qui va surtout, elle, prendre le micro et pour nous parler du coup du texte d'Elsa Dorlin. C'est à toi.
Alors, en 90, Judith Butler, elle publie dans Gender Trouble, donc Tout brûlé dans le jar en français. Dans ce bouquin, en fait, elle élabore un concept qui s'appelle justement la performativité du genre. Et donc, je vais essayer de vous l'expliquer. Donc, ce sont en fait les forces politiques qui façonnent le corps. Et elle explique que c'est ces forces qui ont intérêt à faire en sorte qu'il reste uni et constitué par les marqueurs du sexe. Elle dit que le pouvoir, il discipline le corps sexué afin d'asseoir un système de domination permettant de normaliser l'hétérosexualité reproductive, donc ouais, comme une norme vers laquelle on tendrait tous. Et vu que le genre, en fait, c'est une parodie sans modèle, en théorie, nous accomplissons du coup des rituels sociaux pour nous signaler. Et par exemple, pour nous marquer ou pour nous comporter, en fait, de la manière qu'on attend que nous nous comportons. Par exemple, on fait des énoncés, en fait, qui disent si on est un homme ou une femme, en fait, dans la société. Par exemple, on va marcher d'une certaine manière, ou on va s'habiller d'une certaine manière, ou on va parler d'une certaine manière, ou la façon de sourire, de pencher la tête ou pas, ou de se battre ou non, de courir ou pas, etc., etc. Et tous ces performatifs, en fait, en les exécutant, on resignifie que on est homme, qu'on soit homme ou femme, en fait, selon les codes du genre en question. Et ce qui peut montrer qu'en fait c'est une parodie et qui en fait a pas de modèle, c'est comparer en fait les codes de féminité en fait d'une femme lambda, genre moi, au code de féminité d'une drag queen. Et par exemple, moi je sais pas, je suis pas née avec du fard à paillettes sur les paupières, je suis pas née avec du rouge à lèvres, ni avec une mini jupe, vous voyez. Et il y a pas de raison en fait que la drag queen, en reprenant ces codes-là ou en les hyperbolant en fait, eh ben elle soit dans l'imitation d'une féminité qui en fait n'est pas le propre d'une femme, puisqu'en fait il s'agit d'accessoires et pas d'un truc qui existe en soi en fait. Et du coup, ça fait bien que cette identité-là, on la produit au moment où en fait on l'exécute. En fait, on la joue pour pouvoir l'incarner, mais elle est pas là en soi. Et donc le genre, du coup, il doit se répéter en tant que performatif. Et c'est parce qu'on répète tout le temps ce rituel dans nos quotidiens, dans la société, que le genre, il parvient à se masquer. Parce que du coup, ça fait croire que le genre, eh ben, il génère le rapport de domination. Alors qu'en fait, c'est exactement le contraire. C'est le rapport de domination qui va engendrer le genre et tous les codes qui s'y rattachent, en fait. Du coup, Elsa Dorlin, elle tente d'appliquer directement ce concept de performativité à la question du racisme. Et ça lui permet de repenser l'articulation, donc comme j'avais dit dans l'intro, du sexisme et du racisme, en proposant une analyse de l'engendrement de ces deux rapports de domination. Et par exemple, elle s'inspire vachement de Frantz Fanon, dans Peau noire, masque blanc, ou dans Les damnés de la terre aussi, mais moi je vais vachement baser sur Peau noire, masque blanc. Il y a un autre personnage aussi qui est, lui, d'origine indienne, et Pob, elle en avait parlé du féminisme indien. Bon, il s'agit pas de féminisme, mais du coup, comme ce sont des pensées en fait qui s'articulent entre elles, moi je trouve que c'est intéressant de dire que aussi dans cette pensée de l'imitation coloniale, en fait, il y a aussi des Indiens qui s'étaient exprimés en fait. Et donc il s'appelle Homi Bhabha et c'est l'une des figures actuelles les plus importantes des post-colonial studies et il développe le concept d'imitation coloniale donc un peu en s'inspirant de Frantz Fanon et il dit que ça pourrait être en fait une transposition intéressante de la problématique de performativité justement à la question du racisme et de la post-colonie. Donc par exemple, l'imitation, c'est un mode typique du discours colonial. Elle peut être comprise comme une technique de pouvoir qui vise à enfermer le colonisé en fait dans l'identité infamante, c'est-à-dire que on va lui donner une identité qui le caractériserait en fait comme un stéréotype. Et ce stéréotype, il devient du coup par effet l'identité que le colonisé est contraint d'imiter pour exister ou de performer pour être connu. Et Fanon, lui, il nous montre que ce stéréotype, en fait, il devient justement la scène sur laquelle se joue la subjectivation du colonisé. Alors, par subjectivation, on entend reconnaître que c'est un sujet pensant, indépendant, avec son système à lui, vous voyez. Et du coup, ça lui donne cet accès, justement, au statut de sujet, parce que du coup, le colon lui-même, il peut le reconnaître dans ce rôle-là. Et le blanc, du coup, il va faire le noir, et le noir ainsi réifié, il va faire le blanc. En fait, c'est deux stéréotypes qui vont s'inter-identifier. Sauf que à la base du stéréotype, c'est le dominant blanc en fait qui a créé le masque dans lequel en fait le noir doit pouvoir se reconnaître. Et Frantz Fanon, il nous dit aussi qu'il y a plusieurs identités à imiter ou à jouer. En tous les cas, plusieurs masques blancs. Il n'y en a pas qu'un. Et le premier, c'est celui qui aspire à l'égalité. En imitant le langage du blanc, en plongeant dans le monde du blanc, en couchant avec la femme du blanc. Donc, je ne veux pas être connu comme noir, par exemple, mais comme blanc. Et qui peut le faire sinon la blanche, en fait? C'est-à-dire que la blanche, en aimant le noir, elle va prouver que celui-ci, il est digne d'un amour blanc. Et du coup, lui, il va se sentir aimé comme un blanc, et donc être digne ou être comme un blanc. Et cette subjectivation, dans le contexte du racisme, elle passe nécessairement, on voit bien, par le rapport sexuel. Et du coup, ça devient l'ultime étape de la reconnaissance du noir. Et cette imitation du blanc, elle est défaillante selon Homi Bhabha, justement, parce qu'elle renvoie l'imitateur à ce qu'il n'est justement pas. C'est-à-dire que ça maintient l'autre à l'extérieur du monde des dominants. Parce qu'il est toujours dans une performance, mais cette performance, elle est forcément imparfaite, puisqu'un noir, il sera jamais vu comme un blanc, en fait. C'est impossible. Et du coup, cette performance, elle est maladroite. Et il essaye de rentrer dans une norme qui ne peut jamais, dans laquelle il ne peut pas être inséré. Et ça permet justement de l'exclure encore plus, parce que du coup, ça devient l'imposteur du blanc. Et donc, du coup, ça permet aussi au blanc de mieux le contrôler. Donc, tant qu'il s'évertue en fait à copier, et c'est ça aussi qui pose un problème, c'est que du coup, il ne va pas inventer de nouvelles façons en fait inédites de résistance à ce système de domination et d'oppression du blanc en fait. Et Bhabha, il appelle cette tactique coloniale l'ambivalence de l'imitation. Parce que du coup, il est presque le même, mais il est jamais tout à fait le même, en fait. Du coup, l'imitation, elle doit toujours en rajouter. Bah, comme pour dans le genre, en fait, on en fait des tonnes pour être encore plus féminine. Et comme elle doit toujours en rajouter pour être efficace, et bah, cet excès qui est impossible à masquer, parce que l'excès, il se voit, il est palpable, et bah, il peut faire que le dominé, il est tenu en respect. Mais c'est ce qui le marque et le désigne comme dominé. C'est cette exagération du trait du dominant, en fait. Du coup, en imitant l'identité dominante, eh ben, il est toujours démasqué comme un imitateur. Et en revanche, il produit le blanc comme original. Et il produit le blanc comme sujet authentique. Du coup, là, on va faire une petite pause et on va écouter le premier morceau. Et il s'agit de Gabilonia. C'est une rappeuse mexicaine. Et le titre de la chanson, c'est « Mi gente negra ». Donc, elle reprend, en fait, dans le refrain, un classique mexicain d'un chanteur dont j'ai zappé le nom. Et elle la reprend à sa sauce, en rap. Et elle parle de tous les gens qui sont racisés de valeur ou qui ont accompli des grandes choses dans leur vie. Voilà.
Las caras lindas de mi gente negra son pura dulzura de la pura. Hey, puro guatire, escúchala.
Única mujer partiendo liga, escucha pa' que critiques, me tires y digas, black mío siniga. En el mundo entero los negros han cumplido su misión. Toma asiento y préstame mucha atención. Si de fútbol se trata esta pelea, es el mejor negro metiendo bola. Barry Bomas, a mi Sosa lo tienes en el béisbol. Michael Jordan.
Jordan, el negro que manda en el basquetbol. Tiger Woods, el mejor negro que tiene el golf. Eddie Murphy, uno de los mejores en la actuación. Eddie Stephen y su limón va a recetar el color. Ismael Rivera, con el entierro a la moda, el incomprendido y el negro bembón. Celia Cruz, hermanos Lebron, el grupo Madera representando nuestra nación. Andy Montañez, con Pai Segundo y su son. Cheo Feliciano, Oscar de León, Martin Luther King, la Orquesta Aragón. Tego Calderón, Colombia y Requesón, ajá, Rottweiler, lo llevo de corazón. Como el rey del pop, tenemos a Michael Jackson, que lamentablemente de los negros fue el único falso, porque cambió color, nariz y todo, pero igual me alegro, porque haga lo que haga, sigue siendo un negro. Y Franklin Virgo, Gladys Ibarra, Carlos Cruz, Coquito y Tomás Enrique, ellos son la escuela, duélale a quien le duela, son los mejores negros que tiene la televisión en Venezuela y van pa'l cielo, los que tienen ven pa' grande y tienen malo el pelo, a esos que por ser negro le dice espada en el suelo, lo bendice el Cristo negro de Portobelo, que te lo diga, maestro. En el hip hop que muchos ni se imaginan, Anónimo, Consejo, Flaco Flow y Melanina, Lauryn Hill, Missy Elliott, Winnie Houston, Alicia Keys, Dr. Dre, Tupac Notorio, Snoop Dogg, Wu-Tang Clan, Jay-Z, Black Hip Hop Music. Y de aquí, Joe, sabes que es obvio que hacia los negros muchos sienten odio, pero igual nos compran el oro negro, que es el petróleo. Son un motivo que merecen un homenaje y que por eso le escribo. Jamaiquinos, brasileros, africanos, cubanos, venezolanos, puertorriqueños, dominicanos, haitianos, es para los negros que nunca desmayan en cada batalla. Y los que ahorita están con una toalla mirando la playa, espero que los negros se mantengan sinceros y sigan poniéndole mucha fuerza, humildad y esmero de cora. Los negros avanzan a toda hora, somos la amenaza que ríe y la melaza que llora. Por todo el color oscuro que he nombrado me siento orgullosa y junto a los míos lo celebro.
Oui, nous sommes toujours dans Rien à signaler, une émission féministe sur Radio Audio, Saint-Etienne 89.5. Et on parle de sexisme et racisme. En fait, on rigole parce que Pop a essayé de m'écrire un truc à l'envers et c'est illisible. Et donc, je ne comprends rien. Et comme je suis nulle en maths, les symboles, je les connais pas non plus. Du coup, moi, je partais en fait du texte d'Elsa Dorlin, performe ton genre, performe ta race, ou dans l'autre sens, je sais pas. Et j'essayais de vous expliquer en fait le lien qu'on pouvait faire ou qui était fait en tout cas dans ce texte, du coup, et que je trouve intéressant, entre la performativité du genre et l'imitation coloniale qui a été développée par des théoriciens comme Frantz Fanon ou Omi Baba. Et là, en l'occurrence, j'étais plutôt sur Omi Baba, mais qui s'inspire de Peau noire, masque blanc de Frantz Fanon. Et du coup, je vais y revenir. Donc, j'étais en train d'expliquer en quoi l'homme noir avait en fait des masques blancs à prendre pour pouvoir être reconnu en fait par la classe dominante des blancs. Et là, on était en fait dans l'imitation qui visait à essayer d'être le plus comme un blanc. Et là, maintenant, je vais en venir à un autre type de masque. Et du coup, on est toujours dans le texte de Fanon, cette fois-ci, peau noire, masque blanc. Et donc, l'autre figure emblématique, bah, c'est celle du nègre. Alors, le nègre, son principe, c'est quoi ? C'est de retrouver son peuple. C'est vouloir être nègre, mais pas comme tous les autres. Ou mais un véritable nègre, vous voyez, un chien de nègre, tel que le voudrait le blanc, en fait. Donc... il retrouve son peuple, c'est pour le faire, c'est aussi se retrouver le plus indigène possible, pour avoir l'air le plus authentique, le plus méconnaissable. Et par exemple, il y a aussi Césaire qui évoque ça dans Les damnés de la terre. Il parle de la négritude. Ça, c'est un terme qui est souvent revenu médiatiquement et tout. Et cette négritude, elle s'apparente finalement à une incorporation de stéréotypes aussi, mais inversés. C'est-à-dire faire le nègre, c'est le jouer, mais du coup le fabriquer aussi. Si les traits infamants parce que la catégorie des dominants blancs, elle considère qu'être nègre, eh ben c'est pas être un sujet authentique ou en tout cas pas comme un blanc pourrait l'être. Eh ben resignifier ces traits infamants, eh ben les revaloriser, ça n'en fait pas moins que les contours de l'identité en question, elle a été tracée encore une fois par les dominants. C'est-à-dire que le masque, il n'est pas tombé. Et plus encore, le masque, il est pas noir sur peau noire. Le masque, il demeure blanc. C'est l'identité noire fantasmée par le blanc dominant, en fait, que le noir essaye de produire à outrance et qui est projeté, en fait, sur lui. Et du coup, on retrouve dans le concept de performativité ou performance, hein, selon ce qui vous semble plus acceptable ou plus compréhensible, dans la mesure où tout, mais absolument tout, est fait pour donner à voir ou à laisser croire à l'existence d'une identité noire, comme tout est fait pour laisser croire à une identité de genre féminin ou une identité de genre masculin fondamentale qui serait la cause de cette culture du coup différente de la culture du blanc dominant. Et l'imitation, en fait, elle devient exactement sur le même principe que la performance, un produit fabriqué et qui permet en fait de construire un sujet racisé. Et ce sujet racisé, elle prétend le retrouver en le nettoyant des injures du dominant, donc de l'oppression, mais en fait ce sujet, il permet de corroborer l'idéologie raciste du coup, puisqu'il ressignifie les traits infamants que le blanc lui attribue en fait. Du coup, il participe en fait de la racialisation du monde. Et sur la racialisation du monde, par exemple, il y a Colette Guillaumin qui parle un peu de... Il y a une sociologue qui a parlé de la race, elle va nous en dire 2-3 mots.
Ouais, alors vite fait, du coup, je peux reprendre un petit résumé qui introduit un peu la position et le parcours de Colette Guillemin, qui, je vous l'avais cité dans l'émission précédente, enfin, ou pas, en tout cas, l'émission qu'on avait fait, dont c'est le deuxième volet. Du coup, elle a écrit un bouquin qui s'appelle « Sexe, race et pratique du pouvoir ». Et du coup, Colette Guillemin, elle a d'abord fait des recherches qui font date sur le racisme à la suite de Frantz Fanon, et, où elle souligne l'infériorité des non-blancs et de la hiérarchie des personnes suivant leurs caractéristiques biologiques. Donc, c'est une situation qui est faite dans la société. Hein. Elle affirme pas ça, elle le critique. Et du coup, elle le critique aussi en tant que sociologue qui remet en question la notion de race en tant que qui n'a pas de valeur scientifique et qui, du coup, dit que c'est un mode de classement arbitraire. Et elle démonte les discours, du coup, naturalisants, essentialistes, qui légitiment les discriminations. Et donc voilà, à partir des années 60, elle s'intéresse au féminisme. Elle intègre l'équipe de rédaction de la revue Questions féministes, fondée en 1977 par Simone de Beauvoir, qui est la source et l'organe de publication du féminisme. Donc c'est une revue qui existe toujours et dont on vous a aussi parlé dans l'émission de temps en temps. Et donc, voilà, cette... Du coup, la source de publication du féminisme matérialiste. Voilà. Et du coup, elle y côtoie Delphi, Monique Wittig, Nicole Claude-Mathieu, Monique Plaza, Emmanuel Lesseps, je connais pas. Et du coup, voilà, en 78, elle fait paraître un important article qui s'appelle « Pratique du pouvoir et idées de nature », qui théorise l'oppression des femmes à travers l'idéologie et la construction sociale. Et donc ces critiques recoupent celles des féministes radicales et posent le jalon de la critique du genre. Voilà. Et du coup, aujourd'hui, elle enseigne au Canada. Voilà.
Et donc à partir de cette idée de la racialisation du monde, donc on peut encore continuer sur le regard blanc en fait sur les noirs ou la culture noire. Et en l'occurrence, il y a un mythe qui est vachement perpétré aussi, c'est le mythe du matriarcat. Et avant d'en arriver là, je ressignifie en fait les similitudes du coup entre performativité de genre et de race, en disant que s'il y a des similitudes entre les analyses justement de Butler, donc qui est à l'origine de l'idée de performativité du genre, et celle de Fanon ou de Baba sur le rapport colonial, et ben en fait l'hypothèse d'Elsa Dorlin là qui est posée dans ce texte, c'est que les concepts de performativité et d'imitation, ils peuvent nous permettre de comprendre ensemble sexisme et racisme en pensant une logique commune. Et c'est ça qu'on essaye de dégager là. Et par exemple, donc aux USA, et ben pendant la période esclavagiste ou ségrégationniste ou les deux à la fois, hein, c'est développé une conception du matriarcat noir qu'on retrouve vachement dans des discours encore aujourd'hui néoconservateurs de la droite américaine entre autres, hein. Et ça génère en fait une forme d'organisation sociale qui serait qualifiée de monstrueuse, en ce que du coup elle est pas naturelle ou hors norme. Dans laquelle l'ordre naturel des sexes, et ben, il se retrouve inversé, où c'est les femmes qui sont présentées généralement comme de mauvaises mères, et ou des femmes abusives ou castratrices, alors que l'une des pratiques caractéristiques justement des systèmes esclavagistes et des gouvernements coloniaux, et ben, c'était l'émasculation. L'émasculation est symbolique et effective, hein, faut le savoir quand même, ça se faisait vraiment de l'esclave ou du colonisé. Et le matriarcat noir, du coup, ça devient une figure emblématique. Aux States, on appelle ça la welfare mother. Et Elsa Dorlin, elle traduit cette expression par la diva des allocs. Et cette figure, elle est vachement sexuelle, surérotisée, elle est survirilisée aussi. Et ça permet d'assurer son effet castrateur sur les hommes noirs. Et à qui, en fait, du coup, cette figure interdit de devenir de vrais patriarches selon des codes de domination blanche, de dominant en fait. Et du coup, sa sexualité, elle est tout le temps ramenée en fait à sa fertilité, à cette welfare mother, à la diva des allocs. Et donc, la mère assistée représente une femme sans morale, à la sexualité débridée. Et il y a Patricia Hill Collins aussi qui en parle vachement dans Black Feminist Thought. Ça veut dire la pensée noire féministe ou féminisme noir. Ce qui rend ce matriarcat monstrueux, c'est le fait qu'il synthétise les deux facettes antinomiques ou opposées selon d'une féminité normative. Et dans la féminité normative, les deux figures qui s'opposent sans cesse, bah, c'est qui ? C'est la maman et la putain. Et du coup, bah, là, on la synthétise en fait en une seule personne. Et cette figure, ça devient une représentation omniprésente des discours racistes et sexistes. Et avant de continuer, du coup, j'ai envie qu'on écoute Ladies First de Queen Latifah, dont on vous a déjà parlé plusieurs fois. The rhyme, it is wicked. Those that don't know how to be pros get evicted. A woman could bear you, break you, take you. Now it's time to rhyme. Can you relate to? A sister's open up to make you holler and scream. Yo, let me take it from here, queen. Excuse me, but I think I'm about due to get into precisely what I am about to do. I'm conversating to the folks who have no whatsoever clue. So listen very carefully as I break it down for you. Merrily, 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 high for happy overjoyed. Please, with all the beats and rhymes my sisters have employed. Slick as you throwing down the sound, totally a yes. Let me state the position. Ladies first, yes? Yes.
Yeah, there's gonna be some changes right there.
Being a woman is great to see. I know that all the fellas out there will agree with me. Not for being one, but for being with one. Cause when it's time for loving, it's the woman that gets them sworn. Stepping, strutting, moving on, rhyming, cutting, and not forgetting. We are the ones to give birth to the new generation of prophets, cause it's late.
I break into a lyrical freestyle. Grab the mic, look at the crowd and see smiles. Cause they see a woman standing up on her own too. Sloppy slouching is something I won't do. Something that we can't flow.
Can't flow.
Stereotypes, they got to go.
Got to go.
I'ma mess around and flip the scene into reverse.
With what?
With a little touch of ladies first.
Ladies first.
you must be blind. If you don't believe or hear, listen to this rhyme. Ladies first, there's no time to rehearse. I'm divine and my mind expands throughout the universe. A female rapper with a message to send. The Queen Latifah is a perfect specimen.
My sister, can I get some?
Sure, Moni Love, grab the mic and get dumb.
Yo, praise me not for being simply what I am. Born in L-O-N-D-O and sound American. You dig exactly where I'm coming from. You want righteous rhyme and I'ma give you some. To enable you to age yourself and get paid. And the material that has no meaning I wish to play. Pay me every bit of your attention. Like mother, like daughter, I would also like to mention. I wish for you to bring me through, to bring me through the rhythm. Of which is now systematically given. Desperately stressing I'm the daughter of a sister. Who's the mother of a brother, who's the brother of another. Plus one more, all four. Have a job to do, we doing it, respect due to the mother who's the root of it. And next up is me, the M-O-N-I-E-L-O-V-E. And I'm first, cause I'm a L-A-Z-I-E.
Contact and in fact, the style it gets harder. Cooling on the scene with my European partner. Laying down track after track, waiting for the climax. When I get there, that's when I text the next man or the next woman. It doesn't make a difference, keep the competition coming. And I recite chapter in verse. The title of this recital is Ladies First.
Donc on est toujours dans Rien à signaler, où on traite du sexisme et du racisme comme deux oppressions qui peuvent s'articuler entre elles. Et on en était à parler d'un texte d'Elsa Dorlin où on explique en quoi la performativité du genre et l'imitation coloniale sont des pendants en fait, qui permettent d'asseoir ces systèmes d'oppression et comment on peut les réfléchir ensemble du coup pour les désamorcer. Et donc on en était à parler du matriarcat noir supposé... soit dans les ex-colonies, soit aux États-Unis où il y a une population en descendant des esclaves. Et à propos de ça, de ce matriarcat noir hyper caractéristique de ce qu'on reproche en fait à ces personnes-là, il y a Pob, elle avait un truc à dire.
Oui, en fait, on se disait que le matriarcat, c'est souvent une espèce d'épouvantail ou un mythe qui est brandi pour discréditer du coup les femmes et du coup la possible le possible changement de société et de situation qu'elles tentent de mettre en place et en faisant une espèce de caricature de oui voilà le fantasme du matriarcat qui serait l'inversion du patriarcat où les femmes prendraient le pouvoir et feraient toutes les misères que les hommes font aujourd'hui aux femmes et dont les hommes redoutent tant. Et voilà, et que bon bah en fait ça existe pas, quelles que soient les sociétés. Ce qui existe, c'est le matriarcat qui existe, c'est un matriarcat de filiation, et du coup c'est une histoire de transmission, d'héritage dans les familles et d'organisations sociales différentes, qui peut jamais se comprendre comme une inversion telle quelle ou comme une oui comme un modèle où simplement les hommes seraient à la place des femmes et les femmes à la place des hommes. Enfin, il n'y a pas de société qui s'inverse de toute façon à leur identique. Elles sont toutes différentes, donc on ne peut pas penser que c'est des modèles inversables. Voilà. Et du coup, il y a des gens qui ont travaillé là-dessus et qui montrent bien que ces sociétés matriarcales, à part être des sociétés de filiation différentes, où c'est les femmes qui transmettent le nom et qui ont une organisation différente dans la famille et dans la société, ces sociétés matriarcales fantasmées et épouvantailles contre les femmes n'existent pas. Voilà.
Et donc là, on revient aux États-Unis, du coup, où pour monter cette façon de discriminer ces femmes-là, il y a un terme qui est vachement utilisé pour interpeller cette figure donc hyper sexualisée. Là, c'est bitch, tout simplement, qui permet de matérialiser en la nommant ainsi la jeune femme sexuellement insatiable, entreprenante. Et du coup, cette prétendue immoralité des femmes noires, ça devient une conception rémanente des idéologies racistes, esclavagistes et ségrégationnistes dans les plantations du sud des États-Unis et aussi sur les habitations des colonies françaises. Elle a vachement en fait permis de disculper et de blanchir les blancs des viols systématiques en fait perpétrés sur les femmes noires au nom de leur lubricité à elles ou de l'immoralité de ces dernières quoi. Du coup, c'est hyper craignos. Et en fait, c'est un terme et une conception qui est reprise vachement dans le gangsta rap ou dans le rap bling bling, où bitch, ça fait référence à l'animalité. Et souvent, ça compare les femmes noires à des chiennes et leurs enfants à une portée, par exemple. Et cette représentation, elle est hyper pernicieuse parce qu'elle fait disparaître le stéréotype en tant que stéréotype, en fait. Et du coup, pour être reconnue dans sa féminité noire, bah, la féminité racisée, elle doit répondre à la féminité dominante, qui est tout aussi racisée, en fait, des blanches ou des bourgeoises. Et il faut l'incarner totalement. Et c'est par l'expérience du coup du sexisme et du racisme que les femmes noires ont développé leur pouvoir et leur autonomie. Donc ça, c'est bien. Et ça devient et du coup cet apanage des hommes qui normalement est ça quoi, l'empowerment, le fait d'avoir du pouvoir ou de pouvoir faire des choses sur soi ou autour de soi ou dans la société qui nous entoure. Et ben ça fait que elle s'est saisie, cette femme-là, en fait, qui a subi ces multiples oppressions, en fait, des attributs qui sont normalement typiquement masculins dans la société dominante. Et ça implique nécessairement l'effémination des hommes noirs. Du coup, ces stéréotypes, ben, ils mettent en scène des imitations de genre, mais des mutations de genre, en fait. C'est-à-dire que l'homme, ça va être comme si l'homme devenait une femme et la femme devenait un homme. Et justement, c'est ce que vient de démonter en deux secondes Pop, quoi, dans un truc de c'est pas vrai, c'est pas ça ce qui se passe en fait réellement, quoi. Et d'ailleurs, la chanson qu'on a écoutée juste avant, là, de Queen Latifah, Ladies First, c'était justement une chanson réponse à un morceau d'un groupe que j'ai pas envie de nommer, du coup, parce que forcément, c'est des connards. Et où en fait, eux, ils étaient vachement dans la stigmatisation, le stéréotype de la femme noire. Et elle a fait ce morceau, en fait, pour leur répondre, quoi.
Du coup, moi, je voulais rajouter une petite précision. C'est quand je parlais justement de comment on ne pouvait pas penser les sociétés matriarcales qui seraient l'inversement des sociétés patriarcales. Et ben, du coup, il faut parler de sociétés matrilinéaires si on veut comprendre qu'il y a aussi des sociétés qui sont différentes dans l'organisation sociale des nôtres et qui donc sont matrilinéaires et que le matriarcat, c'est un mythe. En fait, ça n'existe pas.
Et du coup, les normes de la féminité et de la masculinité, du coup, elles ont historiquement contribué à engendrer des stéréotypes, ben, du coup, racistes dans ce contexte-là. Et du coup, la féminité dominante racisée blanche, elle s'est construite autour d'un certain nombre de traits, forcément à l'opposé de ceux de la femme noire, donc genre moralité, maternité, et si c'est pas en tout cas la pureté et l'innocence, c'est au moins l'ignorance de la sexualité, quoi. Du coup, elle devient une ressource politique. Et donc, devenir libre et accéder à l'égalité, ben, pour une femme noire dans ce genre de contexte, c'est aussi devenir mère. Et c'est être connue dans son rôle de femme et de mère. Comme un truc de « je peux le faire moi aussi » au même titre qu'une femme blanche, qu'une bourge, qu'une femme qui représente du coup l'idéal normalement vers lequel tendre, quoi. Et les femmes africaines-américaines, elles n'ont pas participé justement en masse au mouvement des femmes dans les années 60 et 70 aux USA, parce que il y avait vraiment le truc de voir les féministes blanches vachement majoritaires et que la concentration en fait des femmes blanches dans ces luttes-là, ben elles étaient aussi caractérisées en fait par le fait que ces femmes, elles étaient souvent hétéros, de classe moyenne ou plus élevée, et il y avait vachement une modalité de domination. Du coup, elles étaient vachement en fait sur la dénonciation de la domination de genre, mais elles tenaient pas en compte en fait les spécificités concernant les femmes noires. Et donc comme on l'avait dit aussi dans notre émission, il y a vachement ce truc de la femme blanche qui militait pour l'avortement libre et gratuit, alors qu'à l'inverse, et ben il y avait des femmes qui militaient pour avoir le droit à la maternité, quoi. La reproduction, quoi.
Ça revient à dire ce qu'on a dit dans les précédentes émissions, en fait, que les contextes, ils sont différents et qu'il faut les prendre en compte tous, et que du coup, ce truc de droit à la maternité, du coup, ça va aussi avec des espèces de, des trucs qui sont très peu connus, mais qui ont réellement existé, qui sont des campagnes de stérilisation, du coup. Et que du coup, à l'inverse d'un droit à l'avortement que certaines demandaient, d'autres avaient besoin d'être soutenues aussi dans le fait qu'elles se retrouvent pas à subir des stérilisations forcées ou des choses comme ça, quoi. Donc voilà, c'est toujours ce truc comment on peut se reconnaître les unes et les autres dans des luttes, parce qu'on n'a pas les mêmes situations sociales, en fait, et que du coup, on n'a pas besoin des mêmes choses. Enfin, même si tout le monde a besoin d'être reconnu dans l'accès à l'avortement ou le fait de pas être stérilisé ou je sais pas quoi, mais en tout cas c'est
Selon d'où on vient, effectivement, on n'a pas forcément, les priorités sont pas forcément les mêmes. Et du coup, ça a fait que bah, les femmes noires, qui on avait justement historiquement dénié l'accès à la maternité, et ben, et qui avaient été donc victimes de ces campagnes de stérilisation forcée, elles se reconnaissaient pas en fait dans les idéologies que les femmes blanches féministes elles proposaient de défendre, quoi. Et par exemple, parmi les leaders noirs des droits civiques dans les années 60-70 aussi, il y avait vachement une identité viriliste de revendiquer, justement pour contrecarrer ce mythe du matriarcat noir et du coup de l'homme efféminé qui sert à rien, fainéant, blablabla. Et du coup, il y avait une espèce de promotion de leur rôle de dominant qui était mais voulu et en fait défendu aussi par les femmes noires, du coup, parce qu'on essayait justement de tendre vers la virilité sexiste que le modèle de la société américaine y défendait, quoi. Et du coup, pour eux, c'était en fait le signe de l'accession à l'égalité, en fait, mais des hommes entre eux. C'est-à-dire, l'homme noir, et ben, il peut être comme l'homme blanc. Mais du coup, c'était sans réfléchir à la domination intestine qui s'opérait en fait entre hommes et femmes, quoi. Du coup, les femmes, elles ont accepté en fait ces rôles subordonnés pour le bien en fait de entre guillemets la race, quoi. Et ça a été un piège politique pour les femmes, pour beaucoup de féministes africaines américaines, mais certaines aussi ont réussi à trouver des pendants et de créer autre chose et différemment. Et entre autres, Angela Davis, dont va nous parler maintenant Pomme, qui a essayé de faire les choses autrement.
Ouais, du coup Angela Davis qui est quand même assez connue parce qu'elle a un parcours vraiment assez fou et enfin assez fou parce qu'il est sacrément bien rempli. Et donc moi je vais tenter de vous reprendre un peu des brèves notes que je vais tenter d'enchaîner. Alors du coup vous raconter un petit peu son parcours et ses positionnements. Du coup, Angela Davis, donc elle est née en 44 à Birmingham dans l'État de l'Alabama. Donc c'est une militante américaine communiste des droits de l'homme et du coup aussi professeure de philosophie. Donc elle est militante des droits civiques, proche du Black Panthers Party, donc un parti politique qui a subi beaucoup de répression et qui a même été complètement éliminé. Bref, du coup, on va pas faire l'histoire des Black Panthers, mais c'est aussi assez passionnant. Et du coup, elle a été poursuivie en justice à la suite de tentatives d'évasion de 3 prisonniers, donc qui ont été surnommés les frères Soledad, et qui se solva par la mort d'un juge californien en août 70. Donc elle a emprisonné à 16 mois à New York, puis en Californie, et elle fut finalement acquittée et poursuivie une carrière universitaire qui la mena au poste de directrice du département des études féministes de l'Université de Californie. Et donc, elle a pour centre d'intérêt la philosophie, le féminisme et notamment le black feminism, les études afro-américaines, la théorie critique, le marxisme et le système carcéral et encore d'autres choses. Et puis aussi, en 97, elle a fait son coming out auprès du magazine Out. Et donc, voilà, alors pour vous faire un petit tour de vite fait son grand parcours. Donc, elle est introduite au sein de l'organisation de jeunesse marxiste-léniniste. Au début, elle participe à des manifestations de soutien des mouvements des droits civiques qui connaissent un grand élan avec des campagnes de sitting initiées en 1960 en Caroline du Nord. En 62, elle obtient une bourse pour étudier à l'université de Brandeis, je sais pas si ça se dit comme ça, dans le Massachusetts. Et donc, elle est l'une des 3 premières étudiantes noires à la faculté, à pouvoir entrer à la faculté. En 1963, elle va partir en Europe et du coup, c'est une période où il y a pas mal d'événements. Enfin, du coup, il y a des attentats aux États-Unis qu'elle identifie comme du coup, je cite, des événements violents et spectaculaires qui sont l'expression de la routine quotidienne, souvent monotone, de l'oppression raciste. Et voilà, elle reste du coup encore en Europe pendant une période où le mouvement de libération des Noirs se transforme en partie aussi. Et il y a une radicalisation qui amène au slogan du Black Power. Du coup, elle a une positionnement politique ambivalente. Du coup, parce que en fait, elle va se balader dans plusieurs mouvements, et donc elle va d'abord adhérer à l'organisation radicale des étudiants du campus, qui se tourne vers la lutte du Vietnam. Elle est arrêtée à ce moment-là pour distribution de tracts, sa première arrestation. Elle travaille à organiser un conseil des étudiants noirs à l'université de San Diego, jusqu'alors qui était inexistant. Du coup, son implication, en fait, lui révèle de profondes désunions du mouvement de libération des Noirs et de très fortes rivalités qui traversent ce mouvement-là. Et du coup, voilà, ça va être compliqué, en fait. Mais elle, sur le plan des objectifs, elle s'oppose au séparatisme de certains des organisations du black nationalisme qui pensent que la libération du peuple noir doit passer par une séparation de la société blanche et la fondation d'une nation noire sur le sol américain ou africain. C'est un peu Malcolm X aussi, il a traversé ces mouvements-là. Mais bon, du coup, voilà. Angela Davis, elle soutient pas cette démarche-là. Et donc le marxisme aussi, c'est une des théories politiques qui constitue un de ses éléments centraux de son positionnement. Et elle pense que la lutte de libération des Noirs doit s'insérer dans le mouvement révolutionnaire dont le socialisme constitue l'horizon. Et or, le marxisme est rejeté par une grande partie des organisations nationalistes qui le désignent comme étant la chose de l'homme blanc. Donc, elle finit par adhérer en 68 au Che Lumumba, une section du Parti communiste américain réservée aux Noirs. Elle rejoint ainsi le Black Panthers Party, dont la position révolutionnaire se caractérise par un égal refus de l'intégrationnisme et du séparatisme. Voilà, donc c'est vrai qu'elle du coup, elle a beaucoup participé à ce mouvement-là. Et, mais du coup, les Frères de Soledad aussi, c'est une histoire qui concerne les gens du Black Panthers Party. Une autre composante de son identité militante est son féminisme. Ce dernier est en partie nourri par son parcours militant au cours duquel elle se heurte au sexisme d'une partie du mouvement nationaliste noir, voire d'une partie des organisations auxquelles elle appartient. On lui reproche notamment le rôle de leader qu'elle est menée à assumer au sein du mouvement. Donc pour l'organisation United Slave de Rond Karanga, ou le poète Amari Baraka, alors nommé le roi Jones, le leadership masculin est un moyen pour les hommes noirs de regagner leur dignité face aux blancs. Donc c'est un peu ce que tu disais juste avant. Et du coup, voilà, pour Angela Davis, elle estime au contraire qu'un authentique mouvement de libération doit lutter contre toutes les formes de domination. L'homme noir ne peut se libérer s'il continue d'asservir sa femme et sa mère.
Yep.
Donc ça, c'est ce qu'elle va dire. Et du coup, son adhésion aussi au Parti communiste américain et au mouvement des Black Panthers Party lui vaut d'être surveillée par le FBI. Parce que du coup, le mouvement des Black Panthers, c'est vraiment un mouvement qui a été traqué par le gouvernement américain. Ils se sont fait plastiquer, ils ont vraiment tué plein de gens. Enfin, le FBI, quoi. Ils ont vraiment essayé de faire disparaître ce mouvement-là. Et notamment, d'ailleurs, en incarcérant des gens, c'est ce qui lui est arrivé. Et du coup, pendant 16 mois en Californie, elle a fait une grève de la faim contre son placement en cellule d'isolement. Et puis elle a été... comment on dit ? Je trouve pas... Elle a été relaxée, enfin, ils ont acquittée, voilà. Elle a été acquittée. Et elle a notamment... Enfin, cette affaire a eu un retentissement international et elle a eu le soutien de pas mal de gens un peu partout dans le monde, notamment d'intellectuels et tout ça. Et puis, voilà, puis son combat aussi s'est beaucoup mené contre l'industrie carcérale et la peine de mort aux États-Unis et dans le monde. Voilà.
Oui, moi, je trouvais que c'était intéressant d'en parler parce que ça recoupe un peu tout ce que je venais de dire sur la situation, en fait, des femmes noires aux États-Unis. Et maintenant, en fait, on va revenir un peu plus en contexte français, du coup. Et par exemple, en 2003, il y a eu une quatrième affaire du voile qui a ébranlé la République. Et je vais pas citer la première, la deuxième, tout ça, on s'en fout un peu. Mais du coup, il y a Christine Delphi, en fait, qui repeint précisément cette problématique de l'intersectionnalité et qui dénonce ce qu'elle appelle le faux dilemme entre antisexisme et antiracisme, comment justement, en fait, c'est des luttes qui normalement devraient se rejoindre et être solidaires les unes des autres. Et donc, elle souligne combien une partie du féminisme français pro-loi, donc pro-loi anti-voile, port du voile, quoi, a été pris dans le piège de son propre colonialisme en culturalisant, pour ne pas dire en racialisant le sexisme, en fait. Et en fait, cette partie du féminisme, elle a laissé croire en fait que les violences faites aux femmes, elles étaient l'apanage culturel des hommes de banlieue ou autres quartiers populaires. voire une importation des pays dits musulmans, alors que le reste de la société française serait miraculeusement devenu égalitaire. Donc elle aborde ce sujet dans Antisexisme ou Antiracisme, Infodilemme, c'est le titre du bouquin. Et le fait de concevoir le sexisme des quartiers comme une violence extraordinaire, bah, ça a tout simplement eu pour conséquence de réduire les filles voilées au seul statut de victime exceptionnelle de la violence patriarcale. Et le pendant de ce discours, et ben, c'est de reprocher une complaisance ou même une complicité vis-à-vis de la violence de leurs hommes à ces femmes-là, en fait. Avant de continuer, moi, j'ai envie qu'on écoute The Lost Boys, The Race, parce que c'est une chanson, justement, où elle parle de comment elles sont catégorisées, comment on cherche à les catégoriser par rapport à ces deux notions de race, et que voilà, ça tombe bien.
Peut-être tu peux revenir sur l'intro de la chanson, non ? C'est pas mal, là, parce qu'elle parle en anglais, mais on comprend pas.
Ah ouais, alors l'intro, en fait, c'est une journaliste qui les interviewe et qui dit qu'elle est contente de les recevoir et qu'elles correspondent pas justement au stéréotype des Noires américaines, qu'elles ont l'air d'être super cultivées et qu'on n'arrive pas vraiment à définir comment elles sont typées. Et donc, elle veut savoir ce qu'elles ont à dire sur la race. Voilà.
Thanks for coming. I'd like to welcome the Lost Boys to our show.
Great to be here. Thanks a lot for having us.
So, you've been sweeping the queer music scene in a big way, but there's just one issue that you haven't addressed. The viewers out there are really curious about what the Lost Boys have to say on race. I mean, you both are not the image of the African-American urban rapper that we often see. You sound very articulate and educated. And you, Be Steady, I mean, your skin tone is harder to identify racially. I was just wondering, what are you?
Feel like we out of love, we feel like we kind of stuck. Gotta sell us on the survival, make an extra love. Don't know what we're trying to find. We running all the fall behind. All up in our rings, I wasn't really.
Okay, see, I am black, brown, queer, doing what I got to do. And I don't look like Ellen, but some brown folks are gay too. Not the L word, Tyler Perry, I am not Alicia Keys. My friend, my life is not the shit that they be showing on TV. I am a child of the diaspora of African descent. I'm Sankofa, got my ancestors giving me strength. I'm mestiza, I've been thinking about race my whole life. And though a lot has changed, I've always known some shit ain't right.
Your race, my race is a conceptual competition created to keep us from finding out we ain't got no position. Here I go into this world of confrontation. I'm a black star, crashed into this spot where white assimilation. Wait a second now, I forgot who I was for a minute. I thought this fight would really fit like a glove. It's a catastrophe, I'm talking global proportions and fortunes. But fortunately, I have time to figure out how this shit affecting me.
Feeling like we out of like the kind of stuff you gotta see. To share prop incarcerated, now they send you south to Angola to work with slave wages. We stressed because we can't make it, and pop culture celebrated long as we're inebriated. Some say race is antiquated.
I'm showing on my face all this pain that I feel. My colors chained to what's real. I'm choking on this reality pill. I'm destitute because I have proof that there's something missing. I've been sun kissed with Smith, so now that's my mission. And I ain't greedy, but you trying to tell me content ain't needy. Seriously, I have the scars to prove my strength.
Step
my way up out of this competition. We're running in a race and ain't none of us winning. So follow me up to this end.
enterprising cosmic event. Buy a train ticket out of here, best money ever spent.
I am Tucson, Miss Tubman, motherfucking John Brown. I'm a ride or die, quick to kick this racist system down. For my sisters, my community, the people who get me. I'ma make a lot of noise until I die. Are you with me?
Donc on est toujours dans Rien à signaler, on est dans une émission où on parle de sexisme et de racisme, ou de comment ces notions s'articulent entre elles. Et on en était à parler en fait du contexte français, parce qu'on a vachement parlé des États-Unis et du féminisme noir. Donc en contexte français, moi j'avais envie de revenir sur l'analyse que Christine Delphi faisait du féminisme, qui avait du coup, en fait, en étant pro-loi, discriminé en fait les femmes racisées à leur tour. Et dans un entretien donné à la revue Nouvelles Questions Féministes en 2006, Ouria Boutelja, qui est une figure du mouvement des indigènes de la République assez emblématique, et de l'association féministe des Blédardes aussi, expliquait en quoi le voile est une affirmation de loyauté envers les hommes arabes et inversement un message aux dominants, donc aux hommes blancs, c'est-à-dire vous nous aurez pas, quoi. Et ce message, il s'adresse aux protagonistes actuels du débat, mais aussi aux générations passées. Et du coup, selon Elsa Dorlin, il y a 4 générations de femmes qui sont rappelées ou interpellées, en tous les cas, dans ce message. Et du coup, qui incarnent en fait 4 générations, et donc 4 figures stéréotypées de la féminité, entre guillemets, indigène. Et donc, la mauresse prostituée, la fatma illettrée, la beurette intégrée et la fille voilée indoctrinée. Du coup, on va un peu s'arrêter sur chacune de ces figures. Donc la première, la femme arabe surérotisée, bah, ce serait la belle mauresque voilée qui dévoile ses atours aux militaires français sur des cartes postales diffusées dans toute la métropole à l'époque, quoi, pendant la période de la colonisation, et qui va fixer pour des décennies les traits d'une féminité indigène, calquée du coup sur la féminité racisée de la femme esclave, sauvage, lubrique, des colonies sucrières, etc., quoi. Du coup, la mauresque, elle a été l'un des outils parmi les plus pérennes et les plus efficaces aussi pour inférioriser les colonisés, pour déviriliser, entre autres, les Algériens. Et le message des autorités françaises, qui porte du coup atteinte à l'honneur des hommes arabes, c'était en gros, vous ne tenez pas vos femmes et nous sommes contraints de les satisfaire, quoi. Après, la deuxième figure, c'est la fatma illettrée, bah, c'est la figure quasi asexuée, du moins désérotisée, invisibilisée dans la France des années 60 et les années 70 aussi. C'est la fatma illettrée, donc épouse soumise, à peine tolérée. Elle permet d'altériser les travailleurs immigrés dans les essentialis et de les essentialiser, j'y suis arrivée, dans des valeurs opposées à la France, c'est-à-dire de la libération sexuelle, en fait, qui était en train de se faire à l'époque, et dans une modernité qui, bien que commune et partagée, ben, du coup, elle est commune et partagée parce que juste pendant 132 ans, en fait, ils étaient là-bas. Donc, en fait, la culture, elle est commune et elle est mélangée, quoi. Et il s'agit, en fait, d'orientaliser à outrance et de barbariser, du coup, ces personnes-là. On retrouve aussi une figure féminine dans la sexualité réside tout entière dans la fertilité. C'est-à-dire que, du coup, cette fatma illettrée, bah, elle équivaut à la welfare mother que je citais tout à l'heure aux States, quoi. Figure repoussoir d'un libéralisme à la française. Et qui attaque en plus du coup l'état social, quoi, parce que ça devient la diva des allocs, on avait dit, c'est plus super calcable ici, quoi, c'est un truc qui a été vachement dit. La troisième, c'est la beurette, qui du coup est un modèle d'intégration, et elle est donnée en exemple contre son frère, donc le beurre, ou bientôt le garçon arabe, qui est réputé en échec scolaire et en déshérence, qui zone au pied des grands immeubles HLM, là. Et qui est aussi en guerre contre sa mère, sa famille réputée archaïque et tout ça. Et donc, il y a toute une génération qui sera enserrée dans des injonctions contradictoires, du coup, sans sortir, sans se renier et sans trahir les siens. Donc, c'est un peu compliqué, forcément. Et la dernière figure emblématique, bah, c'est la jeune fille voilée, qui est réputée endoctrinée et qui est, du coup, la petite sœur de la beurette. Et face à cette figure médiatique mutique, bah, le féminisme des jeunes femmes voilées mobilisées, c'est de fait une réponse politique des subalternes aux stéréotypes coloniaux et post-coloniaux. Mais dans ce cas, on reste dans l'imitation coloniale telle que décrite par Fanon et Baba, en fait. On reproduit ce truc-là. Et pour je pense que pour les Indiens de la République, bah, c'était une réponse présente à la persécution passée des mères colonisées, stigmatisées comme des femmes lascives, immorales et soumises. Et cette réponse, elle est prise dans la dialectique du savoir et du pouvoir colonial, quoi. C'est-à-dire que la jeune fille voilée performe du coup une féminité traditionnelle, vierge, pieuse et effectivement puissante, comme toutes les figures féminines héroïques, vierges, combattantes, amazones. Une féminité éminemment occidentale, en fait. Et c'est ça un peu qui est problématique, du coup. Enfin, que du coup, moi, je comprends en fait leur position, mais c'est vrai que il y a aussi, ça peut en tous les cas poser ces questions-là.
Et parce que en fait là, c'est l'analyse d'Elsa Dorlin sur ces figures-là. Et au début, tu parlais de Ouria Boutelja,
qui est elle une figure emblématique des Indiens de la République et des Blédards, et qui avait fait cet appel-là en fait. Et Elsa Dorlin, elle dit que du coup, en essayant de resignifier en fait le maintien dans leurs origines, et ben elles reproduisent à nouveau ce truc de calcage de la projection du blanc en fait sur le dominé, quoi. Du coup, plutôt que d'en débattre, puisqu'on n'aura pas le temps, moi j'ai envie qu'on écoute une chanson. Alors c'est pas la quatrième finalement, c'est la cinquième, donc c'est Be Love, aux portes de l'islam, parce que tout simplement elle parle de ce qu'on vient de dire et que ce sera parfait pour terminer cette émission.
Du coup, simplement dire que bah, on se retrouve un mercredi sur deux sur Radio Audio 89.5 et que donc vous étiez à l'écoute de Rien à signaler. À bientôt.
Certains n'aiment pas les Arabes mais apprécient le couscous. Tous les mêmes qui n'aiment pas savoir que leurs ancêtres couraient dans la bouffe. Mon patron aime le reggae mais pas les dreadlocks. Nous vivons dans un monde de paradoxes. La culture est admirée et l'homme méprisé. Même le social s'embarrasse de préjugés. L'argent du beurre mais pas le beurre. Parlons du fanatisme, c'est de ça que les gens ont peur. Ou plus précisément du fanatique. Il faut s'en protéger, on appelle ça purification ethnique. Le racisme est à son paroxysme. La crise d'argent, des crises de xénophobie. On expédie les différences à coups de génocide. Derrière ce délire de masse, quelqu'un décide. Quelqu'un ou quelques-uns à qui profite le drame de ceux qui ont franchi les portes de l'islam. Auprès des démagogues, ils mélangent maghrébins, musulmans et intégristes. L'ignorance renforce la peur. Ce n'est plus assez de les faire passer pour des voleurs. Il faut qu'ils soient aussi terroristes. On les met tous dans le même sac, en vrac, à coups de matraque. Et tous les bien-pensants se croient-ils plus tolérants? Des prêtres aiment leurs prochains de trop près. Autrefois on les brûlait. Maintenant on ferme les yeux du moment qu'il la ferme. Le Vatican révoque des évêques qui l'ouvrent trop. Où est le réel blasphème? Trop de systèmes qui part à volo. Résultat, des hommes et des femmes sont de plus en plus nombreux à franchir les portes de l'islam. Sacré n'est à l'abri de la déformation. Aucun dogme à l'abri du temps. Et toujours au nom de Dieu on fait couler le sang. Trop de ferveur entraîne des actes destructifs. Tandis que le pontife interdit les préservatifs. À défaut de nos vies, peut-on sauver nos âmes si nous franchissons les portes de l'islam?
Aux portes de l'islam.